Chapitre 8, la fuite. Au sommet de la côte suivante, André Ménotte se retourna encore. Il n'y avait plus sur le grand chemin que la poussière soulevée par sa propre course. Si loin que pût se porter le regard, rien ne se montrait. Les limiers, lancés à sa poursuite, étaient distancés déjà. « Hardi, Black, bon cheval, souviens-toi » Il venait parfois, en sortant de l'écurie, il venait jusqu'à la petite fenêtre de la resserre, et Julie, la belle créature, lui donnait du sucre et du pain. Julie faisait mieux, elle le caressait, tout hennissant. Black était le 51e et le seul bien traité parmi les galants de Julie. On eût dit qu'il se souvenait, en effet, le noble animal. Sa course était douce et rapide comme un vol. Elle s'éveillait dans un baiser. Julie, pâle et blanche comme un lys, mais si adorablement belle que le cœur d'André éclatait à la fois d'allégresse et de douleur. C'était affaire à Black de se conduire tout seul. André ne voyait plus que Julie. Julie ouvrit les yeux et se dressa tout effarée. Elle ne se souvenait plus. Puis sa mémoire parla soudain. Elle poussa un cri. « Nous sommes sauvés !» lui dit André, qui souriait paisiblement. Julie demanda. « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu donc fait ?» Car il fallait une cause à cette fuite étrange. « Je suis sauvé !» répéta le jeune ciseleur. « Je suis heureux et je t'aime !» Ses lèvres effleurèrent le front de Julie, qui frissonna et demanda « Où me mènes-tu ? » André souriait toujours. À un endroit où la route était solitaire, il tourna brusquement la tête de Black et prit un chemin de traverse sur la gauche. Au bout d'un millier de pas, il tourna pour la seconde fois sur la gauche encore, et pendant toute une demi-heure, il alla ainsi, de sentier en sentier, tournant partout où la légère voiture pouvait passer. Black se faisait du bon sang maintenant et trottait à son aise. « Qu'espères-tu ? » interrogeait cependant Julie. Elle ajoutait, croyant qu'il s'agissait de tromper définitivement une poursuite. « C'est un jeu d'enfant, on se cache un jour, deux jours. »« Je ne veux pas me cacher plus d'un jour, » répliqua André. Sa course en zigzag était finie. Il commença à se diriger vers l'est, d'après le soleil. 2 heures après le départ de Caen, à peu près, il retrouva l'Orne qu'il traversa au bac de Feugerolles, après quoi il franchit le grand chemin d'Alençon, puis celui de Falaise, aux environs de Roquencourt. À 7 heures, et non loin de là, il aurait pu rencontrer un autre de nos personnages, Jean-Baptiste Schwartz, errant de sentier en sentier et secouant sa conscience. Entre Bourguebus et la route de Paris, de grands bois s'étendent. André mit Black au pas tant que dura le rombrage. Puis il dit « Nous y reviendrons ». Le regard de Julie glissa vers lui, plein d'inquiétude. La sérénité même d'André lui faisait peur. Avait-il perdu la raison ? André s'arrêta à 100 pas de la route de Paris, en vue du petit village de Vimont, à 1/2 lieue de Mouargens. Il fit descendre Julie et déchargea la valise qu'il porta de l'autre côté de la haie, disant « Je vais chercher notre déjeuner, attends-moi ». Julie s'assit sur l'herbe. C'était pour elle un songe plein de fatigue. Elle ne savait rien, elle ne devinait pas. Le matin, quand il s'était agi de partir et qu'elle avait demandé « Avons-nous donc quelque chose à craindre ?», André lui avait répondu « Oui, quelque chose de terrible ». Et l'expression de sa physionomie, elle s'en souvenait bien, était plus effrayante encore que ses paroles. Maintenant, il est vrai, André souriait, André affirmait qu'il n'y avait rien à redouter. Mais comment croire ? André avait dit encore « Je ne veux pas me cacher plus d'un jour ». Quel pouvait être ce danger qu'un jour verrait naître et s'évanouir ? Tout cela était bizarre, invraisemblable, inexplicable. Derrière ces apparences, il y avait des menaces. Déjà, une parole avait traduit les épouvantes de Julie. Elle avait demandé à son mari « Qu'as-tu fait ?» Certes, l'idée qu'André pouvait avoir commis une action condamnable n'était pas entrée dans son esprit, mais les femmes ne savent pas. Son imagination allait de l'avant. Qu'avait-il fait pour fuir ainsi ? Dès qu'elle fut seule, une angoisse sourde serra sa poitrine. Elle eut peur, horriblement. Et voyez où s'égarait cette terreur. Elle se dit, si André n'allait pas revenir. André revint. Il était à pied. Il portait un panier et chantait en marchant. Julie s'élança vers lui et lui cria de loin, « Qui aura pris soin du petit ce matin ?»« Ah, le petit, » fit André, « je songeais à lui, justement. Nous allons causer de lui tout à l'heure. » Toutes ces choses avaient une couleur étrange, extravagante, car André aimait follement son enfant. Il prit la valise. La haie bordait un champ de blé mûr. Il se coula entre deux sillons. Julie le perdit de vue. Il reparut l'instant d'après sans valise. « Cela nous aurait embarrassés, dit-il. Nous allons faire une partie de campagne. » Une partie de campagne? Julie eut le frisson. Malgré ce brûlant soleil de juin qui jaunissait les épis, c'était menaçant comme l'éclat de rire des désespérés. André mit un de ses bras dans l'anse du panier et donna l'autre à Julie en murmurant « Le ciel est trop beau pour que Dieu n'y soit pas. » Julie le remercia d'un regard mouillé. Depuis le matin, elle n'avait pas entendu une si bonne parole. Ils allèrent tous deux le long de la marge du champ. Julie promenait son regard morne sur la haie fleurie. Elle n'osait plus interroger. André se reprit à chanter. Il chantait un de ces refrains que disent les filles de Sartène. Là-bas, on entend cela dans les sentiers tortueux qui grimpent à la Cugna. Ce pays des implacables colères est plein d'amour. Quiconque a écouté ces chansons de la forêt des Myrtes s'en souvient, et de la fillette hardie qui les répétait. Deux larmes tremblaient aux paupières de Julie. Ce chant lui parlait du passé. Les grands bois étaient proches. Ils y entrèrent par une allée ombreuse qui courait droite sous les hauts sapins de feuillage noir. « Chante aussi, toi, » dit André. Julie dégagea son bras et joignit ses mains. « Je t'en prie, supplia-t-elle, parle-moi, je souffre. » Il y avait un sentier tournant qui se plongeait sous le couvert. André s'y engagea. Au bout de quelques pas, il s'arrêta devant une petite clairière tapissée de jacinthes en fleurs. Le soleil, tamisé par les hauts feuillages, se jouait parmi cette moisson d'azur. Un filet d'eau invisible murmurait derrière les buissons, répondant à cet autre murmure, large comme la voix de la mer au lointain et qui tombait des cimes balancées. « Assieds-toi, » fit André. Et il s'agenouilla près de sa femme. Il était pâle, mais son œil brillait. Julie entendait battre son cœur. « Te souviens-tu, » murmura-t-il après quelques instants occupés à la contempler, « du jour où tu consentis à me suivre, moi, artisan, fils d'artisan, toi qui étais riche et noble, c'était un jour pareil à celui-ci. »« Je me souviens, » répondit Julie, « je t'aimais. » « Tu m'aimais, cela est vrai, mais pas comme tu étais aimé, car chacun a ce qu'il mérite, et c'est un culte que je te dois. Mais tu avais confiance, et tu étais entraîné dans ce grand amour qui t'enveloppait. Je te promis que tu serais heureuse. »« Je t'aimais, » répéta Julie, « et je t'aime. » André prit ses mains, qu'il porta jusqu'à ses lèvres. « C'était des bois aussi, » continua-t-il. « Ceux qui nous poursuivaient étaient implacables, et nous n'avions pour nous que notre amour. » « Ce fut assez, c'est toujours assez. Te souviens-tu, nous entendions le galop de leurs chevaux sur la route, et il y eut un moment où la poussière, soulevée par leur course, fit un nuage autour de nous. « Je me souviens, » prononça tout bas la jeune femme, « mais ce jour-là, je savais le nom de nos ennemis. Je te disais, à cette heure-là même, en essuyant la poudre que la sueur collait à ton beau front, je te disais, « si nous n'avons qu'un jour, qu'il soit beau, qu'il soit joyeux, qu'il vaille toute une longue vie. » Il s'appelait et il se répondait dans le maquis. Nous étions calmes, tu souriais, tu disais, paroles adorées, c'est ici la communion de nos fiançailles. Et tour à tour, nos lèvres qui venaient de partager la même bouchée se rafraîchissaient au même breuvage. « Je suis calme, je souris, » balbutia Julie. « Le passé m'importe peu. Parle-moi du présent. »« Ah, le passé importe, » répliqua le jeune ciseleur. « Il est à moi. Le présent ne m'appartient plus et j'ignore l'avenir. » Julie lui tendit son front. L'attirant contre elle et le pressant, elle dit encore, « J'ai peut-être deviné, mais je veux tout savoir de ta bouche. » Il ne répondit pas. Ceux de là-bas ont retrouvé notre trace et nous poursuivent, murmura-t-elle en devenant plus pâle. Non, répliqua-t-il, ce n'est pas cela. Qu'est-ce donc ? Il s'assit, entourant de son bras la taille flexible et frémissante de la jeune femme, et commença ainsi. On a volé 400 000 francs cette nuit dans la caisse de M. Bancel, et nous sommes accusés de ce crime. Nous ? Répéta Julie, dont le regard s'éclaira. Elle ajouta, en pressant sa poitrine soulagée, « Oh, j'avais peur !» André la couvrait d'un doux regard. « Écoute, reprit-il, Paris est le seul endroit au monde où j'espère te cacher. Ma résolution est arrêtée, comme ma conviction est faite. Nous sommes condamnés d'avance et je ne veux pas que tu ailles en prison. »« En prison ?» répéta encore Julie, qui frissonna. André éprouva très vivement l'impatience de n'être pas compris à demi-mot. « Mes minutes sont comptées, » pensa-t-il tout haut. « Mais je crois à ton innocence, comme je suis sûr de la mienne, » dit Julie. « Que parles-tu de prison ?» Les choses qu'on sent profondément sortent d'un jet. Souvent, c'est ce jaillissement qui est l'éloquence. Dès qu'André fut résigné à l'explication qu'il eût voulu éviter, il la fit courte, nette et si frappante que la jeune femme resta atterrée sous la même certitude que lui. Cette certitude, il est vrai, n'était fondée que sur des présomptions assez subtiles, mais elles se coordonnaient et s'étayaient les unes les autres jusqu'à former une masse solide. Julie Ménotte était au-dessus de son état, comme André lui-même et peut-être plus qu'André. Lorsqu'André eut terminé son court plaidoyer, véritable et prophétique résumé du réquisitoire qui venait d'être prononcé contre lui, Julie resta muette. « Hier soir, murmura-t-elle, quand nous avons entendu ce bruit dans le magasin, on volait le brassard, j'en suis sûr. Le commissaire de police rentrait comme nous sortions. Ce n'était pas l'heure de sortir. Monsieur Bancel s'était vanté près de toi d'avoir 400 000 francs en caisse. Le père Bertrand t'a vu compter tes billets de banque et je lui donnais à boire. » Elle mit sa tête entre ses mains d'un air découragé. Puis, tout à coup, révoltée, « Mais qu'importe tout cela, puisque tu es innocent ? « Tout ce que tu feras, je le ferai. Où tu iras, j'irai. Ton sort sera le mien. Je suis ta femme. » « Tu es mère aussi, » murmura André, qui la regardait en extase. L'éclair s'éteignit dans les yeux de Julie. « Pourquoi n'as-tu pas emmené le petit ? » demanda-t-elle. « Tu l'as dit toi-même, » repartit André doucement. « On se cache un jour, deux jours. » Elle s'interrompit dans un baiser plein de larmes. « Si tu me sépares de toi, je mourrai. » Et certes, elle était sincère, André le sentait au battement de son cœur. « Tu vivras pour ton mari et pour ton fils, » répliqua-t-il. « Alors, » s'écria-t-elle en s'arrachant de ses bras, « c'est bien la vérité, j'ai deviné ton dessein, tu veux rester seul en face de notre malheur. » Ce fut d'une voix ferme et presque sévère que le jeune ciseleur répondit, « Oui, je veux rester seul. Et je dis « je veux » pour la première fois depuis que nous sommes mariés, Julie. » Quand même l'idée de fuir à Troyes ne serait pas insensée, je ne me résoudrais pas à fuir. Mon père n'était qu'un pauvre homme, mais il m'a laissé un nom sans tache, et sans tache, je dois léguer son nom à mon fils. « Tu espères donc ?» demanda Julie, attachant sur lui ses grands yeux inquiets. Comme il gardait le silence, elle ajouta, en un véritable élan de passion, « Si tu espères, pourquoi me chasser ?»« Mais non, » s'interrompit-elle, « tu n'espères pas. Ta fuite de ce matin en est la preuve. Elle sera mise à ta charge. Si tu voulais te défendre, il ne fallait pas fuir. » « Je ne suis pas un bien grand savant, » dit André, qui réchauffa les belles mains froides de la jeune femme contre ses lèvres, « mais nous avons lu ensemble l'histoire ancienne où l'on rapporte les guerres des peuples libres. » Quand il s'agissait de vie ou de mort pour ces nations héroïques, quand une ville menacée d'un siège voulait livrer sa suprême bataille, on expulsait les enfants et les femmes. « Bouches inutiles, » murmura Julie amèrement. André s'était remis à sourire. « Tu ne te fâcheras pas, » reprit-il, en dévorant de baisers les pauvres doigts blancs qui tremblaient sous ses lèvres. « Tu es injuste, tu es cruel, mais tu m'aimes et je suis heureux. » « Ceux-là dont je parle renvoyaient leurs enfants et leurs femmes parce qu'ils ne voulaient pas capituler. Quand ceux qu'on aime sont à l'abri, on est fort. Je n'aime que toi, je te cache pour te retrouver après le danger passé. Dès la première menace, j'ai compris la gravité du combat et je me suis interrogé pour savoir quel degré d'énergie j'apporterais dans la lutte. Je t'ai vue près de moi, toi, Julie, mon trésor chéri, je t'ai vue assise sur le banc des accusés. Je ne sais quoi d'ignominieux et d'intolérable, des gendarmes autour de toi et les regards salissants de la foule fixés brutalement sur toi. J'ai vu cela, tu étais blême, maigre, vieillie, quoiqu'il n'y eût pas plus de 4 semaines ajoutées à ton âge. Ta tête s'inclinait, tes yeux rouges semblaient brûlés par les larmes. J'ai vu cela, et j'ai senti que mon courage défaillait. Tu entends bien, j'ai frémi, j'ai pleuré, j'ai crié à mes juges imaginaires, « Sauvez ma Julie, et je vous ferai l'aveu du crime que je n'ai pas commis. Éloignez d'elle ses gardiens, défendez à cette cohue obscène de la souiller des yeux. Qu'il ne soit plus permis à ces hommes de traîner son nom béni dans leurs entretiens, à ces femmes d'assouvir leur féroce jalousie, et vous saurez tout. » Je suis sorti de nuit avec mon brassard, fabriqué tout exprès pour forcer les caisses à secret. Je suis entré dans la maison Bancel. Comment, oh, que vous importe, mon brassard n'ouvre pas les serrures, mais sans doute que j'avais de fausses clés. J'ai deviné les combinaisons de la caisse. J'ai fait sauter le pêne hors de la gâche avec un levier, je suppose. Nous autres voleurs, nous savons notre état, comme vous êtes ferrés dans le vôtre. La manivelle a joué, quand la caisse s'est ouverte, voilà l'incident curieux. N'est-ce pas? Mon bras a été pris dans les griffes d'acier, mais mon bras était recouvert du brassard. J'ai retiré ma main tout doucement, le brassard est resté, et j'ai emporté les 400 billets de banque que Bertrand, l'allumeur de réverbères, m'a vu compter sur le banc des acacias. Il essuya d'un revers de main la sueur qui ruisselait de son front. Chose singulière, Julie ne répliqua point. Elle était pensive, je dirais distraite, si le mot n'était cruel. André ne voyait point cela, entraîné qu'il était par sa passion de convaincre. Il poursuivait son plaidoyer. « Les pauvres n'ont guère de mérite à être braves, disait-il, riant et suppliant à la fois. Que risque-t-il? Moi, je suis trop riche, j'ai trop à perdre, cela me rend lâche. J'ai demandé à la fuite le temps d'enfouir au moins mon trésor. Quand ma richesse sera en sûreté, quand j'aurai mis à l'abri mon précieux trésor, ma Julie adorée, je reviendrai moi-même, je le sais, j'en suis sûr, je me défendrai, je combattrai. » Il doit bien y avoir quelque lueur pour éclaircir ce mystère. Je la découvrirai. Ne crains pas que ton absence me nuise. J'irai franchement, je parlerai net. Je dirai, j'ai mis ma vaillance où elle était, ma femme était ma peur, car je l'aime comme jamais on aima. J'ai retiré de la partie cet enjeu trop lourd et me voici. Oh, j'aurais pu fuir comme elle, me voici. Je vous mets au défi de la trouver, mais je réponds pour nous deux. Me voici, me voici. Tant qu'il ne s'agit que de moi, j'ai du courage. Bien plus, j'ai de la confiance. La valeur du dépôt fait beaucoup. Tous les écus de la terre, tous les louis d'or et tous les diamants du monde ne sont rien pour moi auprès de ma Julie. Oh, juge, ma vie et mon honneur sont à vous, mais mon amour ne relève que de Dieu, et c'est à Dieu que j'ai confié Julie. Il avait la tête haute et ses yeux étincelaient. Julie, au contraire, inclinait son beau front. Ses paupières étaient baissées. À quoi songeait-elle? André avait été éloquent, et cependant, il ne pensait pas encore avoir gagné sa cause. Il cherchait des arguments nouveaux. Julie demanda en soupirant, « Comment aller à Paris et comment m'y cacher ?» Il y avait de la rougeur à sa joue. Elle l'ajouta incontinent, comme si cette parole échappée lui eût fait honte. « D'ailleurs, je ne veux pas, je mourrai de chagrin. Jamais je n'abandonnerai mon mari. »